Il est 18h à Niamey, tout de suite le journal du studio Kalangou au micro Michel Dégé. Les titres de cette édition Assemblée générale élective ce samedi à Niamey du bureau du Comité olympique et sportif national nigérien Kosni Issa Kide est réélu à la tête de ce comité avec 19 voix contre 7 pour son challenger. Incinération ce matin à Agadez d'une importante quantité de drogue, les précisions avec le gouverneur d'Agadez, Sadou Saloké, dans cette édition. En partie magazine de ce journal, Moutari Mouamadou nous amène à la découverte d'un nouvel ouvrage intitulé « Au sud de la Libye », un livre écrit par un missionnaire catholique anthropologue vivant au Niger. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les 9 membres du nouveau bureau du Comité olympique et sportif national nigérien, COSNI, ont été élus ce samedi à Niamey pour un mandat de 4 ans renouvelable. Parmi les anciens membres, seuls 3 ont été réélus, dont le président sortant, Issaka Idé, qu'il a remporté avec 19 voix contre 7 pour son challenger Issoufou Badar. Voici la réaction d'Issaka Idé, le président réélu du COSNI, au micro du studio Kalangou.
Je ne peux qu'être satisfait. Je remarque surtout que le résultat démontre une certaine cohésion du mouvement olympique et c'est ça qui me donne le plus de satisfaction. Donc je remercie tout le monde et que Dieu nous garde.
Est-ce qu'il y a des défis que vous comptez relever, monsieur le président?
Mais oui, vous savez, nous sommes un comité olympique. Hein. Le premier défi, c'est une médaille olympique. Donc nous comptons continuer sur la lancée et que tous les sports puissent nous suivre. Et pas forcément des médailles olympiques, mais au moins que chacun dans son domaine de prédilection nous remporte des victoire et c'est ça qui va compter. Pour moi, c'est une continuité dans l'action. Nous devons continuer cette sérénité, nous devons continuer la cohésion. Sans ça, il n'y a pas de résultat.
L'Union des étudiants nigériens à l'Université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, UNUN, a élu lundi un nouveau bureau avec Arif Hassan comme secrétaire général. Les membres du nouveau bureau de l'UNUN ont pris fonction hier avec la prestation de serment. Le tout nouveau secrétaire général au micro de Nafissa Adamou Sifo parle des défis à relever pendant son mandat.
Le comité exécutif de l'Université de Niamey sortant a eu à faire face à de nombreux péripéties qui ont entraîné des conséquences sur le bon déroulement des activités académiques à l'Université de Niamey, mais aussi des conséquences sur les camarades eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui nous avons 5 camarades détenus encore en prison. Nous avons les critères qu'on veut imposer aux étudiants pour l'attribution de la subvention, qu'on appelle l'aide sociale, mais il y a aussi la lenteur du paiement de la bourse, sans compter les multiples problèmes sociaux que nous avons, notamment sur le plan de l'hébergement, la restauration et le transport des étudiants. Donc c'est dire que tous ces éléments forment un tout et c'est un problème sur lequel nous devrons nous pencher. Je demanderai à l'ensemble des étudiants et étudiantes de l'Université de Niamey de créer les conditions de l'unité et de l'union au sein des actions que le comité exécutif sera appelé à lancer. Les défis sont énormes. On a besoin d'être tous unis pour qu'ensemble nous puissions triompher dans la lutte que nous allons mener.
État de droit et droits de l'homme, quelle perspective? C'est le thème d'une conférence débat animée ce matin au siège d'Alternative Espace Citoyen à Niamey par le professeur en droit Jibril Abochi. Cette activité marque le début d'une série de conférences publiques initiées par le mouvement nigérien pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR dans le but de mieux édifier les citoyens sur les droits humains. Des précisions avec le secrétaire général du MPCR, Nayusa Jimraou, au micro du studio Kalangou.
La question des droits de l'homme se pose avec acuité dans ce pays, au point où beaucoup ne croient même pas parce qu'ils disent que ce ne sont que des droits théoriques écrits sur papier. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous penchons sur la question afin de continuer à sensibiliser et à mobiliser encore les citoyens pour qu'ils s'approprient la question de l'état de droit et qu'ils sachent quels sont les mécanismes qu'il y a ou qu'ils disposent pour pouvoir défendre leurs droits. Et vous avez constaté dans un français plus ou moins simple et accessible, il a pu expliquer aux gens, aux autres. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens sont sortis de cette conférence outillés et que demain, chacun saura dire voilà ce que la salle juridique avait prévu. Et c'est dans une série de conférences, juste dans quelques deux semaines, il y aura une autre conférence sur ce lieu. Cette fois-ci, c'est pour faire l'état du lieu de la mise en œuvre de la loi des finances 7 mois après, qui serait animée ici par des éminents économistes et professeurs des universités du Niger et un peu certains viendront du Sénégal si leur disponibilité leur permettra.
Vernissage jeudi dernier du livre intitulé « Justice sociale et paix en Afrique » à l'Institut de recherche de sciences humaines Hirsch de Niamey. C'est un ouvrage de 286 pages écrit par Dr Yacouba Halidou, enseignant-chercheur au département philo à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Pour l'auteur, son livre montre que la construction d'une paix civile et politique laisse entrevoir que la condition première est la justice entendue à la fois comme pratique du bien et application du droit. On l'écoute.
La première partie porte sur la justice sociale. L'injustice d'abord comme fondement premier des crises sociopolitiques en Afrique. De reconnaissance de la différence, des crises sociopolitiques en Afrique, des guerres et conflits identitaires. Et nous avons essayé de poser des perspectives pour la paix en Afrique. Et la deuxième partie de l'ouvrage a porté sur le rapport entre justice et paix, sur la justice comme condition fondamentale de la paix en Afrique. Nous avons également parlé de l'égalité des sexes et son rapport avec la paix. Nous avons porté notre réflexion sur l'organisation des systèmes éducatifs au Niger, sur une éducation à la philosophie de la guerre qui prépare à la paix. Nous allons donc essayer de montrer dans quelles circonstances la guerre s'impose. Effectivement, il existe une guerre juste, celle-là qui prépare la paix.
90 HOP de 32 pays avec des communautés de plus de 450 000 innovateurs à travers le continent ont approuvé le manifeste de politique d'innovation en Afrique le 7 mai dernier à Kigali au Rwanda. C'était en marge du sommet Transform Africa qui a regroupé 48 leaders de l'écosystème de pays africains dont 56% de femmes et représentants des principaux groupes linguistiques du continent. Rabiotou Haroun Moussa, office manager de l'Oasis des entrepreneurs, l'une des participantes nigériennes à ce rendez-vous, nous explique davantage. Elle est au micro d'Adama Dawaki.
La convention, il s'agit d'un document signé par 90 hubs venus d'Afrique, qui représentaient 32 pays différents d'ailleurs. Et il s'agissait de rédiger des recommandations aux différents États d'Afrique dans l'optique de les aider à dynamiser l'environnement numérique et également de les aider à mieux implémenter l'éthique dans leur quotidien dans une vue globale de l'atteinte des ODD. Alors le premier intérêt aujourd'hui que le Niger aurait à adopter cette convention, c'est vraiment d'améliorer non seulement son niveau de vie, mais d'impacter plusieurs aspects. Parce qu'au niveau de la convention, tous les différents domaines en fait ont été pris en compte, de l'éducation à la santé, à l'agriculture.
Dans le cadre de la lutte contre les abus et le trafic de drogue, les autorités régionales d'Agadez ont procédé ce samedi à l'incinération de différentes drogues. Le point avec le gouverneur d'Agadez, Sadou Saloké, au micro de Mousse Maman.
Il est en est ainsi de 2 556 735 comprimés de tramadol, 5 825 comprimés de diazépam, 56 grammes de cocaïne, 8,2 grammes d'héroïne, 8 comprimés de clozépam, 176 164 840 grammes de chambre indien. C'est l'occasion pour nous de remercier l'ensemble des agents des forces de défense et de sécurité et les agents de la justice pour ce travail abattu et qui, par leur action, ont pu soustraire ces produits nocifs de la circulation et de la consommation dangereuse. La lutte n'est pas facile, c'est pourquoi il est appelé à plus de synergie au plan national, au plan régional et au plan international, parce qu'il s'agit véritablement d'un fléau mondial.
Un arrêté interdit la consommation de la chicha sur toute l'étendue de la ville d'Ottawa au comté du mardi 3 juillet 2018. C'est une décision des autorités de la ville d'Ottawa qui ont immédiatement instruit la police pour mener des opérations et traquer revendeurs et consommateurs de la chicha. Le secrétaire général de la ville d'Ottawa, Aluo Larios, nous explique le pourquoi de cette mesure. Il est au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
La consommation de chicha nuit à la santé de notre jeunesse et que la jeunesse est une couche dont l'avenir du pays se repose sur elle. Raison pour laquelle nous avons pris des dispositions pour protéger notre jeunesse par rapport à sa santé et aussi leur permettre d'aller chercher du travail qui sera plus bénéfique pour eux, pour leurs parents et pour leurs petits frères. Et c'était pour cette raison, comme les autres régions ont pris des dispositions pour interdire la consommation, et nous aussi au niveau de la ville d'Ottawa, lors de notre conseil, nous avons décidé ensemble d'interdire cette consommation parce qu'elle nuit à la santé de notre jeunesse. Donc c'était pour cette raison que nous avons pris cet arrêté et sur l'ensemble du territoire de la ville d'Ottawa. En tout cas, la police est là pour mettre la main sur tous les consommateurs, sur tous les vendeurs de la ville d'Ottawa.
La campagne agricole s'est installée normalement dans le département de Dogondouchi. Les semis sont effectués à 86,38%. La situation phytosanitaire est calme. Les phénomènes exceptionnels sont marqués par les vents violents de sable qui affectent de façon négative les cultures. Détail avec Ousmane Garbo-Tiouache, directeur départemental de l'agriculture de Dogondouchi, au micro de Abdelaziz Dayouma.
À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 86,38% du taux de semis, contrairement à l'année passée où on était à 87,94%. Les semis donc sont à 100% au niveau de Douchi, donc Kassari, Kiché et Matankari. Au niveau de Sukukuta et Kriya, c'est pas encore à 100%. Sukukuta, on est à 93,1%. Kriya, on est à 46,87%. Pour les stades phénologiques et pour les céréales, le stade le plus avancé, donc pour le mine et le talage, le stade le moins avancé est la levée, donc 44,5%. Maintenant, pour ce qui est des légumineuses, le stade le plus avancé et la croissance. Et le moins avancé, c'est la levée, effectivement. Maintenant, pour ce qui est de la situation phytosanitaire, elle est calme pour l'ensemble du département. En tout cas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, la situation elle est calme. Pour ce qui est des phénomènes exceptionnels, donc on peut retenir les vents violents de sable. Pratiquement, du début de la campagne à la date d'aujourd'hui, toutes les pluies ont été accompagnées de vents violents de sable, dont on connaît l'impact sur les jeunes plantules qui peuvent affecter de façon négative les cultures. Et Dieu merci, cette année, on a eu quelques cas, mais c'est pas nombreux.
Le forum de la presse.
L'actualité de la semaine, commentée par le journaliste nigérien.
Tous les vendredis à 18h15 sur le studio Kalangou.
Studio Kalangou, au rythme du Niger.
L'espace France Fano a servi de cadre hier au vernissage d'un livre intitulé « Au sud de la Libye ». Mauro Armanino, l'auteur de ce livre, est italien. Il vit au Niger depuis 7 ans. Il nous parle de son livre au micro de Moutari Mohamedou.
D'abord parce que le Niger est au sud de la Libye, mais aussi parce que c'est un lieu symbolique et d'où passe une bonne partie des migrants qui après la Méditerranée et le sable du désert engloutissent. Alors le fait d'être ici et d'avoir donné ce titre, je voulais souligner que c'est un livre qui est né ici et à partir du sable que nous avons ici. En faisant la préfaction, je disais que j'ai écrit sur le sable. Est-ce que le sable peut garder longuement ce qu'on écrit? Non, mais parce qu'on a déjà effacé l'histoire de beaucoup de nos migrants qui ont été oubliés parce qu'ils ne sont jamais arrivés à destination. Je parle beaucoup d'histoires migrantes que j'ai rencontrées, mais aussi un peu de l'actualité de ce pays dans lequel je me trouve depuis 7 ans et qui est devenu mon pays. Et alors je vois les contradictions entre ce que les gens vivent, espèrent, et après ce que le pays en réalité peut leur donner. Je me réfère par exemple, de manière un peu paradoxale, à ces échangeurs qui ne changent pas en réalité. Parce que si notre société ne change pas, à quoi bon faire des échangeurs? Ou bien nous mettons les conditions pour qu'on puisse changer les conditions des plus pauvres de ce pays, mais ce n'est pas avec des coups d'échangeurs que nous allons transformer la société. Je veux dire, cet exemple qui veulent démontrer que nous devrions nous mettre à l'écoute des plus pauvres de ce pays. parce que je pense que c'est là la clé qui donne une réponse aussi à ce que les migrants vivent aujourd'hui. Ils cherchent un futur différent qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. Et cela devrait nous interroger. Alors je me dis, au sud de la Libye, c'est un lieu géographique, c'est un lieu politique, mais c'est aussi un lieu de rébellion, dans le sens que ceux qui quittent leur pays sont en train de dire, voilà, le monde que nous avons ici ne nous plaît pas et nous voulons construire un monde différent.
C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et au revoir.
Studio Kalangu. Les programmes du Studio Kalangu.
Agadez.
Sur la radio Sahara 97 FM.
À Arli.
Sur la radio Kausen 94 FM. À Dogondouchi. Sur la radio Dalol
92.8 FM.
À Tera. Sur la radio Liptako 98.7 FM. À Madawa. Sur la radio Saraounia.